Radio. Première partie, chapitre 6. Tenez, commença le prince. En ce moment, vous me considérez toutes avec une curiosité qui m'inquiète, car si je ne la satisfais pas, vous allez vous fâcher contre moi. Non, je plaisante, se hâta-t-il d'ajouter en souriant. Là, il y avait toujours des enfants, et je passais tout mon temps avec eux seuls. C'étaient des enfants du village, toute une bande d'écoliers. Je ne dirais pas que je les instruisais. Oh non, il y avait pour cela le maître d'école, Jules Thibault. Je leur apprenais bien quelque chose, si vous voulez, mais surtout je vivais avec eux, et c'est ainsi que se passèrent mes 4 ans. Il ne me fallait rien d'autre. Je leur disais tout, je ne leur cachais rien. À la fin, je m'attirais le mécontentement de leur famille, parce que les enfants en étaient venus à ne plus pouvoir se passer de moi. Sans cesse, ils m'entouraient, et le maître d'école finit même par devenir mon plus grand ennemi. Je m'aliénai beaucoup de personnes dans ce village, et toujours à cause des enfants. Schneider lui-même me fit des reproches à ce sujet. Mais de quoi avait-il donc peur? On peut tout dire à un enfant. Tout. Ce qui m'a toujours étonné, c'est l'idée fausse que les adultes se font des enfants. Ceux-ci ne sont même pas compris de leur père et mère. Il ne faut rien cacher aux enfants sous prétexte qu'ils sont petits et qu'à leur âge on doit ignorer certaines choses. Quelle triste et malheureuse conception! Et comme les enfants s'aperçoivent bien eux-mêmes que leurs parents les prennent pour des babies, ne comprenant rien, alors qu'ils comprennent tout. Les grandes personnes ne savent pas que, dans l'affaire même la plus difficile, un enfant peut donner un conseil d'une extrême importance. Oh Dieu ! Quand ce joli petit oiseau fixe sur vous son regard heureux et confiant, vous avez honte de le tromper. Je les appelle des petits oiseaux, parce que les petits oiseaux sont ce qu'il y a de meilleur au monde. Du reste, il y eut surtout une circonstance qui indisposa les esprits contre moi. Quant à Thibault, sa haine était tout simplement de la jalousie. D'abord, il hochait la tête et s'étonnait en voyant que les enfants saisissaient parfaitement tout ce que je leur disais, tandis qu'ils ne réussissaient pas à se faire comprendre d'eux. Ensuite, il se moqua de moi quand je lui eus dit que nous ne leur apprenions rien, lui et moi, mais que c'était eux, au contraire, qui nous instruisaient. Et comment a-t-il pu me jalouser et me calomnier alors que lui-même vivait avec les enfants? Leur commerce guérit l'âme. Parmi les malades que traitait Schneider se trouvait un homme extrêmement malheureux. Je ne sais s'il peut exister une infortune pareille à la sienne. Il avait été placé dans cet établissement comme atteint d'aliénation mentale. À mon avis, il n'était pas fou, mais il souffrait épouvantablement. C'était là toute sa maladie. Et si vous saviez ce qu'à la fin nos enfants devinrent pour lui... Mais je vous parlerai plus tard de ce malade. Maintenant, je vais vous raconter comment tout cela a pris naissance. Dans le principe, les enfants ne m'aimaient pas. J'étais si grand, j'ai toujours été si peu dégourdi, je sais que je suis laid. Enfin, j'avais aussi contre moi ma qualité d'étranger. Les enfants, d'abord, se moquèrent de moi, puis ils se mirent même à me jeter des pierres, après qu'ils m'eurent surpris embrassant Marie. Je ne l'ai embrassée qu'une seule fois. Non, ne riez pas, se hâta d'ajouter le prince en réponse au sourire de ses auditrices. L'amour n'était pour rien là-dedans. Si vous aviez connu cette malheureuse créature, vous-même auriez eu, comme moi, pitié d'elle. C'était une jeune fille de notre village. Elle habitait avec sa mère une petite bicoque éclairée par 2 fenêtres. La vieille vendait du lacet, du fil, du tabac, du savon. Avec la permission des autorités, elle étalait sa marchandise sur une planche disposée devant une de ses fenêtres. Ce commerce lui rapportait quelques menues monnaies qui la faisaient vivre. Elle était malade et avait les pieds gonflés, ce qui l'obligeait à rester toujours assise. Marie avait 20 ans. Elle était maigre et d'une faible constitution. Quoique depuis longtemps la phtisie se fût déclarée chez elle, néanmoins elle allait travailler à la journée dans des maisons où elle faisait le gros ouvrage. Elle lavait les parquets, lessivait le linge, balayait les cours, donnait à manger aux bestiaux. Un commis voyageur français la séduisit et l'emmena avec lui. Mais au bout d'une semaine, il la planta là. Abandonnée sur un grand chemin, elle revint chez elle en demandant l'aumône tout le long de la route. Elle arriva toute sale, tout en loques, avec des souliers horriblement déchirés. Elle avait marché pendant 8 jours, couchant à la belle étoile, et avait beaucoup souffert du froid. Ses pieds étaient ensanglantés, ses mains couvertes d'engelures et de crevasses. Du reste, auparavant déjà, elle n'était pas belle. Elle avait seulement de 12 yeux, pleins de bonté et d'innocence. Sa taciturnité était extraordinaire. Une fois, c'était avant l'incident dont je viens de parler, elle se mit tout à coup à chanter pendant qu'elle travaillait, et je me souviens que le fait causa un étonnement général. Marie a chanté ! Comment Marie a chanté ! Se disait-on en riant. Elle fut fort confuse, et à partir de ce moment, s'enferma dans un mutisme obstiné. Alors, on la traitait encore avec bienveillance, mais quand elle revint malade, les membres saignants, personne ne lui témoigna la moindre pitié. Qu'ils sont durs en pareil cas! Avec quelle sévérité ils jugent ces choses-là! La première, la vieille reçut sa fille avec colère et mépris. « À présent, tu m'as déshonorée !» lui dit-elle. La première, elle l'offrit aux insultes de la foule. Quand on apprit au village le retour de Marie, vieillards, enfants, femmes, jeunes filles, tout le monde accourut pour la voir. Presque toute la population du pays envahit la cabane de la vieille. Mourant de faim, vêtue de haillons, Marie était couchée sur le plancher, aux pieds de sa mère, et pleurait. Tandis qu'affluaient les visiteurs, elle cherchait à se dérober à leur curiosité en se faisant un voile de ses cheveux épars et en tournant son visage contre le sol. Le public faisait cercle autour d'elle, on la considérait comme une vermine. Les vieillards émettaient un blâme impitoyable, les jeunes gens ricanaient, les femmes éclataient en injures et montraient le même dégoût qu'à la vue d'une araignée. La mère, assise dans la chambre, loin de s'opposer à ces manifestations, les encourageait de la voix et du geste. Dans ce temps-là, elle était déjà fort malade, presque mourante. Le fait est que 2 mois après, elle expira. Mais, quoiqu'elle se sentît près de sa fin, elle refusa jusqu'au dernier moment de se réconcilier avec sa fille. Elle ne lui disait pas un mot, l'envoyait coucher dans le vestibule et même la laissait presque sans nourriture. Elle devait mettre fréquemment ses pieds malades dans de l'eau chaude. Chaque jour, Marie les lui lavait et lui prodiguait des soins que la vieille acceptait sans jamais les reconnaître par la moindre parole affectueuse. La jeune fille supportait tout avec résignation. Et plus tard, quand j'eus fait sa connaissance, je remarquai qu'elle-même approuvait tout cela, se considérant comme la dernière des créatures. Quand la vieille s'alita définitivement, les commères du village vinrent la soigner à tour de rôle, suivant l'usage en vigueur dans ces campagnes. Alors on cessa tout à fait de nourrir Marie. Tous les villageois l'écartaient de leur seuil. Personne même ne consentait à lui donner du travail, comme autrefois. Chacun, pour ainsi dire, crachait sur elle. Les hommes ne la regardaient plus comme une femme et lui tenaient les propos les plus orduriers. Parfois, très rarement, quand ils étaient ivres le dimanche, ils lui jetaient des sous par dérision. Marie les ramassait en silence. Alors déjà, elle commençait à cracher le sang. À la fin, ses haillons devinrent si sordides qu'elle n'osa plus se montrer dans le village. Depuis son retour, elle allait pieds nus. Les enfants de l'école, ils étaient plus de 40, se plaisaient particulièrement à la molester et à lui jeter de la boue. Elle demanda à un paysan la permission de garder ses vaches. Il la mit à la porte. Alors, de sa propre initiative, elle s'installa dans cet emploi, accompagnant le bétail au sortir de l'étable et ne le quittant pas de la journée. Le paysan s'aperçut qu'elle lui rendait beaucoup de services et ne la chassa point. Parfois même, il lui donnait les restes de son dîner, du fromage et du pain. Il regardait cela comme une grande bonté de sa part. Quand la mère mourut, le pasteur n'eut pas honte de vilipender Marie publiquement, en pleine église. Vêtue de ses misérables guenilles, elle était agenouillée près de la bière et pleurait. La curiosité avait attiré beaucoup de monde à la cérémonie funèbre. On voulait voir comment la jeune fille pleurerait, comment elle marcherait derrière le cercueil. Le pasteur, homme jeune encore, dont toute l'ambition était de devenir un grand prédicateur, s'adressa à la foule en lui montrant Marie. « Voilà celle qui a causé la mort de cette femme respectable !» Ce n'était pas vrai, car la vieille était malade depuis 2 ans déjà. « Elle est là devant vous, et elle n'ose pas lever les yeux, parce qu'elle a été marquée par le doigt de Dieu. Elle est là, pieds nus, en haillons. Exemple pour celle qui serait tentée de se mal conduire. Qui donc est-elle ? C'est sa fille !» Etc. Et figurez-vous, cette lâcheté fit plaisir à presque tous les assistants. Mais alors arriva une histoire. Alors les enfants prirent parti pour la malheureuse, car à cette époque déjà, ils étaient tous de mon côté et commençaient à aimer Marie. Voici comment la chose eut lieu. Je désirais faire un peu de bien à la jeune fille. Elle avait grand besoin d'argent, mais pendant tout mon séjour en Suisse, je n'ai jamais eu un copec à ma disposition. J'avais une petite épingle de diamant et je la vendis à un brocanteur. Cet homme allait de village en village et faisait le commerce des vieux habits. Il me donna 8 francs de mon épingle, qui en valait certainement 40. Je fus longtemps sans pouvoir me procurer un entretien particulier avec Marie. À la fin, nous nous rencontrâmes hors du village, dans un sentier de la montagne, derrière un arbre. Là, je lui donnai les 8 francs en lui recommandant de les ménager, parce qu'à l'avenir, je ne pourrais plus lui venir en aide. Ensuite, je l'embrassai. « Ne me supposez aucune mauvaise intention, lui dis-je. Si je vous embrasse, ce n'est point parce que je suis amoureux de vous, mais parce que vous m'inspirez une profonde pitié. Dès le commencement, en effet, j'ai toujours vu en vous une malheureuse et nullement une coupable. » Je désirais vivement la consoler, lui persuader qu'elle avait tort de se croire au-dessous des autres. Mais je ne tardais pas à m'apercevoir qu'elle ne comprenait pas mes paroles. Ce fut son attitude qui me la prit, car elle me dit à peine un mot. Elle resta tout le temps debout devant moi, les yeux baissés, comme une personne accablée de honte. Quand je finis, elle me baisa la main. Je saisis aussitôt la sienne et voulus la baiser, mais elle la retira tout de suite. Soudain, nous fûmes aperçus par les enfants. Toute la bande était là. Je sus plus tard qu'ils m'épiaient depuis longtemps. Ils commencèrent à rire, à siffler, à frapper leurs mains l'une contre l'autre. Et Marie se hâta de fuir. Je voulus parler, mais ils me lancèrent des cailloux. Le même jour, tout le village connaissait l'histoire. La malveillance publique s'acharna de plus belle sur Marie. J'ai même entendu dire qu'il avait été question de lui infliger un châtiment. Mais, grâce à Dieu, aucune suite ne fut donnée à cette idée. En revanche, les enfants ne laissèrent plus de répit à leurs victimes. Avec un redoublement d'animosité, ils se mirent à la pourchasser et à lui jeter de la boue. Quand elle les avait à ses trousses, La pauvre poitrinaire courait à perdre haleine pour se soustraire à ses avanies, et il la poursuivait en vociférant des injures. Un jour, je faillis même me colleter avec eux. Plus tard, j'entrepris de leur faire entendre raison. Je leur parlais chaque jour, autant du moins que cela me fut possible. Parfois, ils s'arrêtaient et m'écoutaient, mais ils n'en continuaient pas moins à insulter Marie. Je leur expliquai combien elle était malheureuse. Ils cessèrent bientôt de l'injurier et passèrent leur chemin sans lui rien dire. Peu à peu, nous eûmes ensemble des entretiens plus prolongés. Je ne leur cachai rien, je leur racontai tout. Ils m'écoutaient avec beaucoup de curiosité et ils ne tardèrent pas à prendre en pitié la jeune fille. Plusieurs, quand ils la rencontraient, la saluaient d'un « bonjour » affable. J'imagine que Marie dut être bien étonnée d'un tel changement à son égard. Une fois, deux fillettes à qui on avait donné quelques victuailles allèrent les lui porter et vinrent ensuite me la prendre. Elles me dirent que Marie s'était mise à pleurer et qu'à présent elle l'aimait beaucoup. Bientôt tous les enfants l'aimèrent, et en même temps ils se prirent aussi d'une soudaine affection pour moi. Ils venaient souvent me trouver, et toujours ils me priaient de leur raconter quelque chose. Je suppose que je racontais bien, car ils étaient très avides de mes récits. Par la suite, je m'adonnai à l'étude et à la lecture, uniquement pour leur communiquer ce que j'apprenais dans les livres. J'en usai ainsi avec eux pendant les 3 années qui suivirent. Quand Schneider et les autres me reprochaient de parler aux enfants comme à des hommes faits, et de ne leur rien cacher, je répondais que c'était une honte de leur mentir. « D'ailleurs, ajoutai-je, en dépit de vos précautions, ils sauront toujours ce que vous voulez leur laisser ignorer. Seulement, ils l'apprendront d'une manière qui salira leur imagination. Tandis qu'avec moi, ce danger n'est pas à craindre. Chacun n'a qu'à interroger les souvenirs de sa propre enfance. » Mais ce raisonnement ne convainquait personne. Ce fut 15 jours avant la mort de sa mère que j'embrassai Marie. Lorsque le pasteur prononça son sermon, tous les enfants s'étaient déjà rangés de mon côté. Je leur appris aussitôt l'odieuse sortie que l'ecclésiastique s'était permise, et je la qualifiai comme elle méritait de l'être. Tous furent révoltés. Plusieurs, dans leur indignation, allèrent jusqu'à briser à coups de pierre les vitres du pasteur. Je leur représentais qu'ils avaient eu tort d'agir ainsi. Néanmoins, le bruit se répandit dans tout le village que j'étais l'instigateur du fait, et ce fut à partir de ce moment qu'on m'accusa de pervertir les écoliers. Ensuite, tout le monde s'aperçut qu'ils aimaient Marie, et cette découverte causa une inquiétude extrême. Mais la jeune fille était heureuse. Les parents avaient beau défendre à leurs enfants de la fréquenter, les bambins allaient secrètement la trouver à l'endroit où elle gardait les vaches, et c'était assez loin, à une demi-verste environ du village. Ils lui apportaient des cadeaux, quelques-uns se rendaient auprès d'elle simplement pour la serrer sur leur cœur, l'embrasser, lui dire « Je vous aime, Marie ». Après quoi, ils retournaient chez eux de toute la vitesse de leurs jambes. Peu s'en fallut qu'un bonheur aussi inespéré ne fît perdre la tête à Marie. Même en rêve, jamais elle n'avait entrevu cela. Elle éprouvait un mélange de confusion et de joie. Les enfants, et en particulier les petites filles, tenaient surtout à l'aller voir pour lui dire que je l'aimais et que je leur parlais beaucoup d'elle. « Il nous a raconté toute votre histoire, » lui disait-il. « Maintenant, nous vous aimons, nous vous plaignons, et il en sera toujours ainsi. » Puis ils accouraient auprès de moi, et avec de petites mines joyeuses, affairées, m'informaient qu'ils venaient de voir Marie et que Marie m'envoyait ses salutations. Le soir, j'allais à la cascade. Là se trouvait un endroit entièrement clos du côté du village. Des peupliers l'entouraient. C'était en ce lieu que, pendant les soirées, je recevais la visite des enfants. Plusieurs y venaient même en cachette. Je crois qu'ils prenaient un plaisir extrême à mon amour pour Marie, et durant tout mon séjour là-bas, C'est le seul point sur lequel je les ai trompés. Je leur laissais croire que j'étais amoureux de Marie, bien que j'éprouvasse seulement de la pitié pour elle. Mais voyant qu'ils me prêtaient un autre sentiment et que cette idée leur était agréable, je me gardais de les désabuser, je faisais semblant d'avoir été deviné par eux. Et quelle bonté délicate chez ces petits cœurs! Pour n'en citer qu'un exemple, il leur semblait impossible que leur bon Léon aimât tant Marie, et que Marie fût si mal vêtue et manquât même de chaussures. Imaginez-vous qu'ils lui fournirent des souliers, des bas, du linge et même quelques vêtements. Comment, par quel prodige d'ingéniosité réussirent-ils à se procurer tout cela? C'est ce que je ne comprends pas. Toute l'école se mit à l'œuvre. Quand je les interrogeais à ce sujet, un rire joyeux était leur seule réponse. Les petites filles battaient des mains et m'embrassaient. Quelquefois, j'allais aussi voir Marie à la dérobée. Elle devint fort malade et presque incapable de marcher. À la fin, elle cessa complètement son service à la ferme, mais elle conduisait encore chaque matin le bétail dans les champs. Elle s'asseyait contre un rocher perpendiculaire au sol et restait presque immobile jusqu'au moment où elle ramenait les vaches à l'étable. Épuisée par la phtisie, respirant difficilement, elle passait toute la journée dans une sorte de somnolence, les yeux fermés, la tête appuyée contre le rocher. Son visage était émacié comme celui d'un squelette. La sueur inondait son front et ses tempes. C'est dans cet état que je la trouvais toujours. Je ne venais que pour un moment. Moi non plus, je ne voulais pas qu'on me vît. Dès que je me montrais, Marie tressaillait, ouvrait les yeux et s'empressait de me baiser les mains. Je la laissais faire parce que c'était un bonheur pour elle. Pendant tout le temps de ma visite, elle tremblait et versait des larmes. Parfois, à la vérité, elle se mettait à parler, mais il était difficile de comprendre ses paroles. Elle avait l'air d'une folle, tant elle était émue et exaltée. Parfois, les enfants arrivaient avec moi. D'ordinaire, en pareil cas, ils se tenaient à une certaine distance et faisaient le guet, pour que personne ne me surprît causant avec Marie. Ce rôle de sentinelle leur plaisait infiniment. Lorsque nous étions partis, Marie, se retrouvant seule, restait de nouveau sans bouger, les yeux fermés, la tête appuyée contre le rocher. Peut-être rêvait-elle de quelque chose. Un matin, il lui fut impossible de sortir, comme de coutume, pour mener paître le troupeau, et elle resta chez elle, dans sa petite maison vide. Les enfants la prirent aussitôt, et presque tous vinrent à plusieurs reprises lui faire visite ce jour-là. Elle était au lit et n'avait personne pour s'occuper d'elle. Pendant 2 jours, les enfants furent seuls à lui donner des soins. Ils se relayaient dans l'office de garde-malade. Mais ensuite, quand on sut dans le village que Marie était mourante, de vieilles paysannes vinrent à tour de rôle s'installer à son chevet. Dans la localité, on commençait, paraît-il, à avoir pitié de la jeune fille. Du moins, on laissait aux enfants la liberté de l'approcher, et on ne l'injuriait plus comme autrefois. La malade était toujours dans un état comateux. Elle avait le sommeil agité et toussait effroyablement. Les vieilles femmes empêchaient les enfants de pénétrer dans la chambre, mais ils accouraient à la fenêtre. Quelquefois, pour n'y rester qu'une minute, le temps de dire « Bonjour, notre bonne Marie !» Et elle, dès qu'elle les apercevait ou entendait leur voix, elle était toute ranimée. Aussitôt, sourde aux observations de ses gardes malades, elle se soulevait péniblement sur sa couche, adressait un signe de tête à ses petits amis, les remerciait. Ils continuaient à lui apporter des cadeaux, mais elle ne mangeait plus guère. Grâce à eux, je vous l'assure, elle mourut presque heureuse. Grâce à eux, elle oublia son malheur. Elle reçut d'eux, en quelque sorte, son pardon, car jusqu'à la fin, elle se considéra comme une grande coupable. Pareils à de petits oiseaux, ils battaient des ailes à ses fenêtres et lui criaient chaque matin « Nous t'aimons, Marie !» Elle mourut très vite. Je croyais qu'elle aurait vécu plus longtemps. La veille de sa mort, avant le coucher du soleil, j'allais la voir. Elle parut me reconnaître. Je lui serrai la main pour la dernière fois. Comme cette main était décharnée. Et le lendemain matin, on vint tout à coup me dire que Marie était morte. Cette fois, bravant toutes les défenses, les enfants entrèrent dans la maison. Ils couvrirent de fleurs la défunte et lui mirent une couronne sur la tête. À l'église, le pasteur épargna du moins la mémoire de celle que, vivante, il avait insultée. Du reste, l'assistance se réduisait à quelques curieux. Au moment de la levée du corps, tous les enfants voulurent porter le cercueil. Comme ils n'étaient pas assez forts pour cela, on ne put donner satisfaction à leur désir, mais tous suivirent le convoi en pleurant. Depuis lors, la tombe de Marie a toujours été honorée par eux. Chaque année, ils l'ornent de fleurs. Ils ont planté des rosiers tout autour. C'est surtout après cet enterrement qu'il y eut contre moi un déchaînement général à cause de mes relations avec les écoliers. Les principaux meneurs de cette cabale étaient le pasteur et le maître d'école. On alla jusqu'à défendre aux enfants de se rencontrer avec moi, et Schneider promit de faire bonne garde. Malgré cela, nous nous voyions. Nous causions de loin par signes. Il m'envoyait de petites lettres. Plus tard, les choses changèrent, mais alors c'était charmant. Cette persécution contribua même à rendre plus étroite encore mon intimité avec les enfants. Pendant la dernière année, je me réconciliais presque avec Thibault et avec le pasteur. Mais entre Schneider et moi, les discussions étaient fréquentes, et il me reprochait volontiers ce qu'il appelait mon « pernicieux système avec les enfants ». Comme si j'avais un système. Enfin, à la veille même de mon départ, Schneider me confia une opinion fort étrange qu'il s'était formée sur mon compte. « J'ai acquis l'absolue conviction, me dit-il, que vous êtes vous-même un véritable enfant. J'entends un enfant dans le sens complet du mot. Vous avez d'un adulte la taille et le visage, mais c'est tout. Sous le rapport du développement, de l'âme, du caractère, peut-être même de l'intelligence, vous n'êtes pas un homme fait, et vous resterez tel, dussiez-vous vivre jusqu'à 60 ans. » Cela me fit beaucoup rire. Évidemment, il se trompe. Est-ce que j'ai l'air d'un baby? Une chose est vraie, pourtant, c'est que je n'aime pas à me trouver avec les adultes, avec les hommes, avec les grandes personnes. Et j'en ai fait la remarque depuis longtemps, je n'aime pas parce que je ne sais pas. Quoi qu'ils me disent, quelque bonté qu'ils me témoignent, leur commerce m'est toujours pénible, et je suis enchantée sitôt que je puis aller rejoindre mes camarades. Or, ceux-ci ont toujours été les enfants. Non parce que j'étais moi-même un enfant, mais parce que je me sentais attirée vers le jeune âge. Dès les premiers temps de mon séjour là-bas, lorsque, errant seul et triste, je les voyais tout à coup sortir bruyamment de l'école avec leurs petits sacs et leurs ardoises, avec leurs jeux, leurs rires, leurs cris, toute mon âme s'élançait soudain vers eux. Je ne sais pas, mais j'éprouvais une sensation de bonheur extraordinairement forte chaque fois que je les rencontrais. Je m'arrêtais et j'avais un rire de béatitude en considérant leurs petits pieds qui trottaient si vite, les garçons et les fillettes courant ensemble, les rires et les larmes. Car en revenant chez eux après la classe, plusieurs trouvaient le temps de se battre, de pleurer, de faire la paix et de jouer. Devant ce spectacle, j'oubliais mon chagrin. Ensuite, durant ces 3 ans, je ne pouvais comprendre comment ni pourquoi les hommes se tourmentent. Mon genre d'existence me rapprochait des enfants. Je comptais même ne jamais quitter le village, et j'étais loin de supposer que je reviendrais un jour ici, en Russie. Il me semblait que je resterais toujours là, mais à la fin, je reconnus que Schneider ne pouvait pas me garder. D'ailleurs, il survint une circonstance si importante que Schneider lui-même me pressa de partir. « Je vais voir ce que c'est et conférer avec quelqu'un. Mon sort changera peut-être complètement, mais ce n'est pas là le principal. Le principal, c'est qu'un grand changement s'est déjà opéré dans ma vie. J'ai laissé là-bas beaucoup de choses, beaucoup trop. Tout a disparu. En wagon, je me disais, « À présent, je vais parmi les hommes. Je ne sais rien peut-être, mais une nouvelle vie a commencé pour moi. J'ai décidé que je serai honnête et ferme dans l'accomplissement de ma tâche. Le commerce des hommes me réserve peut-être beaucoup d'ennuis et de contrariétés. J'ai pris la résolution d'être poli et sincère avec tout le monde. On ne peut pas me demander plus. Peut-être qu'ici, comme en Suisse, on me considérera comme un enfant. Eh bien, cela m'est égal. Tous me prennent aussi pour un idiot. J'ai été autrefois si malade qu'alors, en effet, je ressemblais à un idiot. Mais est-ce que j'en suis un maintenant que je comprends moi-même qu'on me juge tel? J'entre et je pense, voilà, ils me prennent pour un idiot. Mais je suis intelligent et ils ne s'en doutent pas. J'ai souvent cette idée. Quand j'ai reçu à Berlin quelques petites lettres que les enfants m'avaient écrites, alors seulement j'ai compris combien je les aimais. La première lettre qu'on reçoit cause une impression bien pénible. Qu'ils étaient tristes en me reconduisant. Un mois avant mon départ, ils avaient pris l'habitude de me reconduire. Léon s'en va pour toujours. Nous continuions à nous réunir chaque soir près de la cascade et nous ne parlions guère que de notre prochaine séparation. Parfois, les enfants retrouvaient leur ancienne gaieté. Mais au moment de retourner chez eux, ils me serraient étroitement dans leurs bras, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Lorsque j'allais prendre le train, tous m'accompagnèrent jusqu'à la gare, qui était située à environ une verste de notre village. Ils s'efforçaient de maîtriser leur émotion, mais, quoi qu'ils fissent pour ne pas pleurer, beaucoup, les petites filles surtout, avaient des larmes dans la voix. Je montai en wagon, le train partit, tous me crièrent « Hurrah !» et restèrent sur le quai aussi longtemps qu'ils purent m'apercevoir. Moi-même, je regardais toujours de leur côté. Écoutez, quand je suis entrée ici tantôt, en considérant vos jolis visages, à présent j'observe les physionomies avec beaucoup d'attention. Et en entendant vos premières paroles, je me suis sentie soulagée pour la première fois depuis que j'ai quitté la Suisse. Tout à l'heure, je me disais que j'étais peut-être en effet au nombre des gens heureux. Je sais qu'il est rare de rencontrer des personnes qu'on aime de prime abord. Et je vous ai rencontré au sortir du wagon. Je sais fort bien qu'en général, on n'ose pas parler de ses sentiments. Et voilà que je vous parle des miens, sans aucun embarras. Je suis misanthrope et je ne reviendrai peut-être pas chez vous d'ici à longtemps. Mais ne voyez ici aucune mauvaise pensée. Si je dis cela, ce n'est pas que je ne tienne point à vous. Ne croyez pas non plus que je me sois blessé de quelque chose. Vous m'avez demandé ce que j'ai remarqué dans vos visages. Je vous le dirai très volontiers. Vous, Adélaïde Ivanovna, vous avez une figure heureuse. Votre visage est le plus sympathique des trois. Outre que vous êtes fort bien de votre personne, en vous voyant, on se dit « Elle a l'air d'une bonne sœur. » Avec vos façons simples et enjouées, vous lisez vite dans le cœur des gens. Voilà l'impression que votre visage a produite sur moi. Vous, Alexandra Ivanovna, vous avez aussi une figure charmante. Mais il y a peut-être chez vous un chagrin secret. Votre âme est fort bonne, assurément, mais vous n'êtes pas gaie. Votre physionomie rappelle celle de la Madone de Holbein qu'on voit à Dresde. Eh bien, voilà aussi l'opinion que je me forme d'après votre visage. À vous de dire si j'ai deviné juste. Quant à vous, Elisabeth Prokofievna, ajouta brusquement le prince en s'adressant à la générale. Votre visage me donne à croire, ou plutôt me prouve, que, malgré votre âge, vous êtes un véritable enfant, avec toutes les qualités et tous les défauts que ce mot implique. Vous ne vous fâcherez pas contre moi parce que je parle ainsi. Vous savez, n'est-ce pas, quel respect je professe pour les enfants. Et si je viens de m'exprimer avec tant de franchise au sujet de vos visages, ne croyez pas que je l'ai fait par naïveté. Oh non, ce n'est pas cela du tout. J'avais peut-être mon idée. Chapitre 7. Quand le prince eut cessé de parler, toutes ses auditrices, y compris même Aglaé, le regardèrent gaiement. Mais la plus contente était Élisabeth Prokofievna. « Voilà l'examen passé !» s'écria-t-elle. « Eh bien, mesdemoiselles, vous vous apprêtiez à le protéger comme un pauvre, et c'est tout au plus si lui-même se soucie de votre protection. » Il a soin de vous dire qu'il ne viendra que de loin en loin. Du coup, nous voilà mystifiés, et j'en suis bien aise. Mais le plus attrapé est Ivan Fédorovitch. Bravo, prince! On leur avait ordonné tantôt de vous faire passer en examen. Mais ce que vous avez dit de mon visage est parfaitement vrai. Je suis un enfant, et je le sais. Je le savais avant que vous l'ayez dit. Vous avez précisément exprimé d'un mot ma pensée. Je crois que votre caractère est de tout point conforme au mien, et j'en suis enchantée. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Seulement, vous êtes un homme, et je suis une femme. De plus, je n'ai pas été en Suisse. Voilà toute la différence. N'allez pas si vite, maman, cria Aglaé. « Le prince dit qu'il avait son idée en s'exprimant avec cette franchise et qu'il ne l'a point fait par naïveté. »« Oui, oui !» firent en riant les deux autres. « Ne riez pas, chérie. À lui tout seul, il est peut-être plus malin que vous trois. Vous verrez. Mais, prince, pourquoi n'avez-vous rien dit d'Aglaé ? Elle attend, et moi aussi. »« Je ne puis me prononcer dès maintenant. » Je remets cela plus tard. Pourquoi? Vous la trouvez remarquable? Oh oui, remarquable. Vous êtes une beauté extraordinaire, Aglaé Ivanovna. Vous êtes si belle qu'on a peur de vous regarder. Et c'est tout? Mais le caractère? Insista la générale. Il est difficile de juger la beauté. Je ne suis pas encore en mesure de le faire. La beauté est une énigme. C'est-à-dire que vous proposez une énigme à Aglaé, dit Adélaïde. Devine, Aglaé. Mais est-elle belle, prince? Extraordinairement, répondit-il en considérant d'un œil ravi celle dont il parlait. Presque comme Nastasia Philipovna, quoique le visage soit tout différent. Étonnement des dames et Panchin qui se regardèrent les unes les autres. « Comme qui ?» fit d'une voix traînante la générale. « Comme Nastasia Philipovna ? Quelle Nastasia Philipovna ?» Tantôt, Gabriel Ardalionovitch a montré son portrait à Ivan Fédorovitch. « Comment ?» Il a apporté ce portrait à Ivan Fédorovitch pour le lui faire voir. Nastasia Philipovna a donné aujourd'hui son portrait à Gabriel Ardalionovitch et celui-ci est venu le montrer. « Je veux le voir !» reprit vivement Élisabeth Prokofievna. « Où est ce portrait? Si elle le lui a donné, il doit l'avoir. Et sans doute il est encore dans le cabinet du général. Il vient toujours travailler le mercredi. » Et jamais il ne s'en va avant 4 heures. Qu'on fasse venir tout de suite Gabriel Ardalionovitch. Non, je ne tiens pas tant que cela à le voir. Ayez la bonté, cher prince, d'aller lui demander ce portrait et de l'apporter ici. Dites qu'on veut le voir. Faites-moi ce plaisir. Il est bien, mais trop naïf, observa Adélaïde lorsque le prince fut sorti de la chambre.
Oui, il est trop naïf, confirma Alexandra. C'est au point qu'il en est même un peu ridicule.
L'une et l'autre semblaient n'exprimer qu'une partie de leurs pensées. Du reste, en parlant de nos visages, il s'est adroitement tiré d'affaire, dit Aglaé. Il a flatté tout le monde, même maman.
Trêve de mots piquants, s'il te plaît, répliqua la générale. Ce n'est pas lui qui m'a flatté, c'est moi qui ai trouvé son appréciation flatteuse.
Tu penses qu'il a usé d'adresse? Demanda Adélaïde.
Il ne me paraît pas signé.
Laisse donc, reprit avec véhémence Elisabeth Prokofievna. À mon avis, vous êtes encore plus ridicule que lui. Il est naïf, mais c'est un malin, en prenant ce mot dans l'acception la plus noble, bien entendu. C'est tout à fait comme moi.
Certes, j'ai commis une vilaine indiscrétion en parlant du portrait, songeait non sans remords le prince Mnouchkine, tandis qu'il se rendait dans le cabinet d'Ivan Fédorovitch. Mais peut-être aussi ai-je bien fait de lâcher cette parole.
Dans son esprit commençait à surgir une idée étrange, assez peu nette encore, du reste. Gabriel Ardalionovitch n'avait pas quitté le cabinet de son patron, et il était absorbé dans ses paperasses. Sans doute ce n'était pas pour rien que la compagnie lui donnait des appointements. Son agitation fut extrême quand le prince lui demanda le portrait et lui apprit comment les dames Epanchine en avaient eu connaissance.
« Eh ! Quel besoin aviez-vous de bavarder ainsi ? »
vociféra-t-il en proie à une violente colère.
« Vous ne savez rien, idiot ! » grommela-t-il en aparté.
« Pardonnez-moi, c'est tout à fait par inadvertance que cela m'est échappé dans la conversation. » J'ai dit qu'Aglaé était presque aussi belle que Nastasia Philipovna. »
Gania lui demanda un récit plus détaillé. Le prince raconta tout. En l'écoutant, Gania le considérait de nouveau avec une expression moqueuse.
« Décidément, Nastasia Philipovna ne vous sort pas de l'esprit, » murmura-t-il. Puis il devint pensif. Sa perplexité était visible. Le prince reparla du portrait.
« Écoutez, prince, » dit tout à coup Gania, comme illuminé par une inspiration subite, « j'ai un immense service à vous demander, mais vraiment, je ne sais... »
Il se troubla et n'acheva point. Une lutte semblait se livrer au-dedans de lui-même. Le prince attendait en silence. Gania attacha encore une fois sur lui un regard pénétrant, sondeur.
« Prince, reprit-il, là, on est maintenant, en ce qui me concerne, par suite d'une circonstance fort étrange et ridicule, et où je ne suis pour rien. Allons, il est inutile de parler de cela. Bref, ces dames sont, paraît-il, un peu fâchées contre moi. » En sorte que, d'ici à quelque temps, je ne veux pas entrer dans leurs appartements sans y être appelé. J'aurai grand besoin de parler en ce moment à Aglaé Ivanovna. J'ai, à tout hasard, écrit quelques mots. »
Il tenait dans ses mains un petit papier soigneusement plié.
« Et voilà, je ne sais comment les faire parvenir. Voulez-vous vous charger, prince, de porter cela immédiatement à Aglaé Ivanovna? Mais il faudrait le lui remettre en main propre, et à l'insu de tout le monde, vous comprenez? Ce n'est pas Dieu sait quel secret, il n'y a là rien de pareil, mais voulez-vous me rendre ce service? »
Cela ne me plaît guère, répondit Mnouchkine.
Ah, prince, il y va d'un si grand intérêt pour moi, supplia Gania. Elle répondra peut-être. Croyez bien qu'il faut un cas urgent, tout à fait urgent, pour que je me permette de m'adresser. Par qui ferais-je porter cela? C'est très important. C'est pour moi de la plus haute importance.
Consternée par le refus du prince, Gania fixait sur ce dernier un regard où se lisait une prière timide.
« Soit, je remettrai ce billet. »«
Mais de façon que personne ne s'en aperçoive !»
insista Gania tout heureux.
« Voyez-vous, prince, je compte sur votre parole d'honneur. »
« Je ne le montrerai à personne. »«
Le pli n'est pas cacheté, mais... »
laissa échapper le secrétaire. Et il s'arrêta confus d'avoir manifesté une crainte qu'il aurait mieux fait de garder pour lui.
« Oh, je ne le lirai pas !»
répondit Mushkine sans paraître froissé le moins du monde. Et, prenant le portrait, il sortit du cabinet. Resté seul, Gania porta ses mains à sa tête.
Un mot d'elle, et je... Oui, vraiment, peut-être que je romprai.
En attendant la réponse à son billet, il était si agité que force lui fut d'interrompre sa besogne. Il se mit à se promener de long en large dans le cabinet. Pendant ce temps, le prince regagnait, tout soucieux, l'appartement des dames et Panchin. La commission dont il venait de se charger le contrariait vivement, et il ne lui était pas moins désagréable de penser que Gania écrivait à Aglaé. Mais, avant d'être arrivé aux deux pièces qui précédaient le salon, il s'arrêta tout à coup, comme si quelque chose lui était brusquement revenu à l'esprit. Puis il jeta un coup d'œil autour de lui, s'approcha de la fenêtre, et se mit à examiner le portrait de Nastassia Philippovna.
On aurait dit qu'il voulait déchiffrer le je ne sais quoi de mystérieux qui, quelques heures auparavant, l'avait frappé dans ce visage. Son impression de tantôt était restée vive, et maintenant il avait hâte de la soumettre, en quelque sorte, à une contre-épreuve. En contemplant de nouveau ce visage, qui n'avait pas de remarquable que la beauté, le prince en reçut une sensation plus forte encore que la première fois. L'orgueil et le mépris, pour ne pas dire la haine, s'accusaient dans cette physionomie avec une intensité extraordinaire. Mais en même temps, on y trouvait une étonnante expression de naïveté et de confiance. Ce contraste éveillait un sentiment de pitié. L'éblouissante beauté de Nastassia Philippovna avait un caractère bizarre. Un visage pâle, des joues presque creuses, des yeux brûlants, cela constituait une étrange beauté. Le prince considérait le portrait pendant un moment, et, s'étant assuré que personne ne pouvait le voir, il approcha soudain de ses lèvres l'image de la jeune femme, qu'il baisa précipitamment. Quand, une minute après, il entra dans le salon, son visage était parfaitement calme. Mais à l'instant où il pénétrait dans la salle à manger, il y avait encore une chambre entre cette pièce et le salon. Il rencontra presque à la porte Aglaé. Elle était seule. « Gabriel Ardalionovitch m'a prié de vous remettre ceci, » dit le prince en lui présentant le billet. Aglaé s'arrêta, prit le pli et regarda le prince d'un air étrange. Sa physionomie ne trahissait pas la moindre confusion, tout au plus un certain étonnement. Encore cet étonnement paraissait-il avoir uniquement pour cause le rôle joué par le prince. Le regard tranquille et hautain de la jeune fille semblait demander à Mushkine comment il se trouvait avoir pris part à cette affaire conjointement avec Gania. Pendant deux ou trois secondes, ils restèrent debout en face l'un de l'autre. À la fin, une expression quelque peu moqueuse se montra sur le visage d'Aglaé. Elle sourit légèrement et s'éloigna. Durant quelque temps, la générale examina en silence et d'un air assez dédaigneux le portrait de Nastassia Philippovna qu'elle affectait de tenir devant elle à une grande distance de ses yeux. « Oui, elle est belle. »
déclara enfin Elisabeth Prokofievna.
« Très belle, même. Je l'ai vue deux fois, mais de loin. Ainsi, vous appréciez cette beauté-là »
demanda-t-elle brusquement au prince.
« Oui, je l'apprécie, »
répondit-il avec un certain effort.
Celle-là précisément.
Oui, précisément. Pourquoi ?
Dans ce visage, il y a beaucoup de souffrance, articula comme involontairement le prince, qui semblait plutôt se parler à lui-même que répondre à son interlocutrice.
Du reste, vous rêvez peut-être, répliqua la générale.
Et d'un geste arrogant, elle repoussa loin d'elle le portrait. Alexandra le prit, Adélaïde s'approcha de sa sœur, toutes deux se mirent à examiner le visage de Nastassia Philippovna. En ce moment, Aglaé rentra dans le salon.
« Quelle force ! » s'écria tout à coup Adélaïde, qui, par-dessus l'épaule de sa sœur, contemplait avidement le portrait.
« Ouh ! Comment une force ?»
questionna d'un ton bourru Elisabeth Prokofievna.
« Une pareille beauté est une force ! »
reprit en s'animant Adélaïde.
« Avec cette beauté-là, on peut révolutionner le monde !»
Elle revint pensive à son chevalet. Aglaé, après avoir donné un rapide regard au portrait, cligna les yeux et avança la lèvre inférieure. Ensuite, elle alla s'asseoir à l'écart et se croisa les bras. La générale sonna.
« Va dire à Gabriel Ardalionovitch de venir ici. Il est dans le cabinet. »
ordonna Elisabeth Prokofievna.
« Maman !»
fit d'un ton significatif Alexandra. La générale, dont la mauvaise humeur était visible, ne tint aucun compte du désir de sa fille.
« Je veux lui dire deux mots. »«
Assez !» répliqua-t-elle péremptoirement.
« Voyez-vous, prince, chez nous à présent, il n'y a plus que des secrets. Toujours des secrets. Il le faut. L'étiquette l'exige. C'est bête. Et cela dans une affaire qui réclame surtout de la clarté, de la franchise, de l'honnêteté. On négocie des mariages. Ils ne me plaisent pas, ces mariages. »
Alexandra essaya encore de la faire taire.
« Maman, pourquoi dites-vous cela ? » ?»«
Eh bien quoi, chère fille ? Est-ce qu'il te plaise à toi-même ?
Et qu'importe que le prince entende cela, nous sommes amis. Moi, du moins, je suis son ami. Dieu cherche les braves gens, mais il ne veut pas des méchants et des capricieux. Des capricieux, surtout, qui décident une chose aujourd'hui et qui, demain, en disent une autre. Vous comprenez, Alexandra Ivanovna ?
Elles disent, prince, que je suis une originale, mais je sais distinguer. C'est pourquoi le cœur est le principal. Et le reste ne signifie rien. Sans doute l'esprit est nécessaire aussi. Peut-être même l'esprit est-il la chose la plus essentielle. Ne souris pas, Aglaé, il n'y a aucune contradiction dans mes paroles. Une sotte qui a du cœur et pas d'esprit est tout aussi malheureuse que celle qui a de l'esprit et pas de cœur. C'est une vieille vérité. Moi, je suis une sotte qui a du cœur et pas d'esprit. Toi, tu es une sotte. Avec de l'esprit, mais pas de cœur. Nous sommes toutes deux malheureuses. Nous souffrons l'une comme l'autre.
Qu'est-ce donc qui vous rend si malheureuse, maman ?
Ne put s'empêcher de demander Adélaïde, qui, seule de toute la société, semblait avoir conservé son enjouement.
D'abord, mes savantes filles, répondit la générale. Et comme cela suffit largement, il est inutile de s'étendre sur le reste. On a déjà fait assez de phrases. Nous verrons un peu comment vous deux, je ne compte pas Aglaé, avec votre esprit et votre faconde, vous vous tirerez d'affaire. Nous verrons, très honorée Alexandra Ivanovna, si vous serez heureuse avec votre respectable monsieur.
Ah ! S'écria-t-elle en voyant entrer Gania.
Voilà encore un conjungo qui se prépare. Bonjour,
ajouta Elisabeth Prokofievna en réponse au salut du jeune homme, que, du reste, elle n'invita pas à s'asseoir.
Vous contactez un mariage ?
Un mariage ? Comment ? Quel mariage ?
Balbutia Gabriel Ardalionovitch stupéfait.
Sa présence d'esprit l'avait complètement abandonné.
« Vous vous mariez, veux-je dire, si vous préférez cette expression ?»«
Non, bégaya-t-il, rouge de honte.
Il regarda rapidement Aglaé, assise à l'écart, puis se hâta de détourner les yeux. La jeune fille ne le perdait pas de vue, et froidement, tranquillement, observait son trouble.
« Non ? Vous avez dit non ?»
poursuivit l'impitoyable Elisabeth Prokofievna.
« Assez. Je me souviendrai que, ce mercredi matin, en réponse à ma question, vous avez dit non. Quel jour est-ce aujourd'hui ? Mercredi ?»«
Je crois que oui, maman, » répondit Adélaïde.
« Elles ne savent jamais les jours. Quel quantième du mois ?»«
Le 27, » dit Gagna.
« Le 27, c'est bon à savoir. Adieu, vous avez beaucoup d'occupations, paraît-il. Et moi, il est temps que je m'habille, j'ai à sortir. Prenez votre portrait. Présentez mes hommages à la malheureuse Nina Alexandrovna. Au revoir, cher prince. Viens le plus souvent possible. Moi, j'irai exprès chez la vieille Bielogonski pour lui parler de toi.
Écoutez encore ceci, cher. Je crois que c'est précisément pour moi que Dieu vous a amené de Suisse à Pétersbourg. Vous aurez peut-être aussi d'autres affaires, mais c'est surtout pour moi. Cela était précisément dans les desseins de Dieu.
Au revoir, chérie. Alexandra, viens avec moi, mon ami.
La générale sortit. Écrasé, déconfit, furieux, Gagna prit le portrait qui se trouvait sur la table et s'adressa au prince en grimaçant un sourire.
« Prince, je rentre de ce pas à la maison. Si vous êtes toujours dans l'intention d'habiter chez nous, je vais vous ramener avec moi, car vous ne connaissez pas notre adresse. »«
Attendez, prince, » dit Aglaé qui s'était levé brusquement. « Il faut auparavant que vous écriviez quelque chose sur mon album. Papa a dit que vous étiez un calligraphe. Je vais vous le chercher à l'instant. »
Sur ce, elle disparut.
« Au revoir, prince, je m'en vais aussi, » dit Adélaïde. Elle serra cordialement la main du visiteur, lui sourit d'un air aimable et se retira sans accorder un regard à Gagna. Celui-ci n'attendait que le départ des dames pour donner libre cours à son irritation. Le visage enflammé de colère, les yeux étincelants, il s'élança soudain vers le prince et l'interpella violemment, quoiqu'à voix basse.
« C'est vous, » proféra-t-il en grinçant des dents, « c'est vous qui leur avez parlé de mon mariage. Vous êtes un effronté bavard. »
« Je vous assure que vous vous trompez, » répondit le prince d'un ton calme et poli. « Je ne savais même pas que vous alliez vous marier.
Vous avez entendu tantôt Ivan Fedorovitch dire que tout serait décidé ce soir chez Nastasia Philipovna, et vous l'avez répété. Vous mentez. Comment aurait-elle su cela ? Qui donc, le diable m'emporte, aurait pu le leur apprendre, sinon vous ? Est-ce que la vieille ne m'a pas décoché des allusions suffisamment claires ?
Si vous avez cru trouver des allusions dans ces paroles, vous devriez mieux savoir de qui elle tient ces renseignements. Moi, je n'ai pas soufflé mot de cela.
Avez-vous remis mon billet ? La réponse ?
Demanda Gagna bouillant d'impatience. Mais au même moment, Aglaé rentra et le prince n'eut pas le temps de répondre.
« Tenez, prince, »
dit-elle en posant son album sur une petite table. « Choisissez une page et écrivez-moi quelque chose. Voici une plume, elle est toute neuve. Cela ne fait rien que ce soit une plume de fer. À ce que j'ai entendu dire, les calligraphes ne les aiment pas. » En causant avec le prince, la jeune fille ne semblait pas remarquer la présence de Gagna. Mais, tandis que Mushkin se préparait à écrire, le secrétaire s'approcha d'Aglaé, qui, debout près de la cheminée, avait le prince à sa droite, et, d'une voix tremblante, entrecoupée, lui dit presque à l'oreille
« Un mot, un seul mot de vous, et je suis sauvée !»
Le prince se retourna vivement et les regarda tous deux. Un véritable désespoir se montrait sur le visage de Gagna. Évidemment, la parole qui venait de sortir de ses lèvres, il l'avait prononcée sans réfléchir, comme un homme éperdu. Durant quelques secondes, Aglaé le considéra avec ce même étonnement tranquille que le prince avait remarqué tantôt chez elle, quand il l'avait rencontré dans la salle à manger. En ce moment, sans doute, le plus violent mépris eût fait à Gania une blessure moins cruelle que cet air froidement étonné d'une femme qui ne paraissait même pas comprendre ce qu'on lui disait.
« Que faut-il écrire ? » demanda le prince. « Je vais vous dicter, » répondit la jeune fille en se retournant vers lui. « Vous êtes prêt ? Eh bien, écrivez. Je me refuse à un marché. »
Maintenant, mettez la date au-dessous. Montrez. »
Le prince lui tendit l'album.
Parfait, c'est admirablement écrit. Vous avez une main superbe. Je vous remercie.
Au revoir, prince.
Attendez, ajouta-t-elle, comme se ravisant tout à coup. Venez, je veux vous donner un souvenir.
Le prince la suivit, mais quand elle fut entrée dans la salle à manger, Aglaé s'arrêta.
Lisez cela, dit-elle en lui tendant le billet de Gania.
Le prince le prit et regarda Aglaé d'un air indécis.
« Je sais bien que vous ne l'avez pas lu et que vous ne pouvez pas être la fidée de cet homme. Lisez, je veux que vous lisiez. »
Le billet, évidemment écrit à la hâte, était ainsi conçu.
« Aujourd'hui, mon sort se décidera, vous savez de quelle manière. Aujourd'hui, je devrais donner une parole irrévocable. Je n'ai aucun droit à votre intérêt. Je n'ose nourrir aucune espérance. Mais autrefois, vous avez proféré un mot, un seul mot. Et ce mot a rayonné dans la nuit de mon existence. Il est devenu un phare pour moi. Maintenant encore, dites un mot semblable, et vous me sauverez de ma perte. Dites-moi seulement « rond ». Et je romprai tout aujourd'hui même. Oh, qu'est-ce qu'il vous en coûte de dire cela? En sollicitant ce mot, j'implore seulement de vous une marque d'intérêt et de compassion. Rien de plus, rien. Je n'ose concevoir aucune espérance, car j'ai le sentiment de mon indignité. Mais après avoir reçu votre mot, j'accepterai de nouveau la pauvreté. Je supporterai joyeusement ma position désespérée. J'affronterai la lutte d'un cœur léger et avec des forces rajeunies. Envoyez-moi donc ce mot de pitié seulement, je vous le jure. Ne vous fâchez pas contre un désespéré, contre un noyé, et ne l'accusez pas d'insolence parce qu'il a osé faire un dernier effort pour échapper à sa perte. J'ai.
Quand le prince eut achevé sa lecture, Aglaé prit la parole d'un ton âpre.
Cet homme assure que le mot « rompez tout » ne me compromettra pas, ne m'engagera en aucune façon. Et lui-même, comme vous voyez, m'en donne par ce même billet la garantie écrite. Remarquez comme il s'est naïvement empressé de souligner certains petits mots, et avec quelle clarté brutale apparaît sa pensée secrète. Il sait, du reste, que s'il rompait tout, mais de lui-même, seul, sans attendre un mot de moi, sans même me parler de cela, enfin, sans fonder sur moi aucun espoir, il sait, dis-je, qu'en ce cas, je changerai de sentiment à son égard, et je deviendrai peut-être son ami. Il est loin d'ignorer cela. Mais son âme est vile, et tout en sachant cela, il ne se décide pas. Il exige des garanties au préalable. Il ne peut se résoudre à agir de confiance. Pour renoncer à 100 000 roubles, il veut que je l'autorise à espérer ma main. Quant aux mots d'autrefois dont il parle dans sa lettre et qui auraient illuminé sa vie, il commet un impudent mensonge. Un jour, je lui ai simplement témoigné quelque pitié. Mais il est insolent et effronté. Là-dessus, il a immédiatement échafaudé des espérances. Je m'en suis aperçu tout de suite. Depuis lors, il s'est mis à me tendre des pièges, comme il le fait encore à présent. Mais en voilà assez. Prenez ce billet et rendez-le lui sitôt que vous serez sorti de chez nous. Pas avant, bien entendu.
Et que faudra-t-il lui répondre, de votre part?
Rien, naturellement, c'est la meilleure réponse. Ainsi, vous voulez habiter dans sa demeure.
Tantôt, Ivan Fédorovitch lui-même y a engagé, dit le prince.
Eh bien, prenez garde à lui. Je vous préviens qu'il ne vous pardonnera pas de lui avoir rendu son billet. » Aglaé serra légèrement la main du prince et sortit. Son visage était sérieux et renfrogné. En saluant avant de se retirer, elle ne sourit même pas. « Je suis à vous, je vais seulement prendre mon paquet, » dit le prince à Gania. Celui-ci frappa du pied avec impatience. Il était devenu noir de rage. Enfin, les deux jeunes gens sortirent de la maison. Le prince tenait à la main son modeste bagage. « La réponse ! La réponse ! » demanda violemment Gania. « Que vous a-t-elle dit ? Vous avez remis ma lettre ?» Le prince lui tendit silencieusement son billet. Gania resta saisi de stupeur. « Comment, c'est mon billet ! » s'écria-t-il. « Il ne l'a pas même remis. Oh, j'aurais dû m'en douter. Oh, maudit ! Ce n'est pas étonnant qu'elle n'ait rien compris tantôt. Mais comment donc ? Comment donc ? Comment donc ne l'avez-vous pas remis ? Oh, monde ! Pardonnez-moi, au contraire, j'ai pu remettre tout de suite votre billet, au moment même où vous me l'aviez donné, et je l'ai remis exactement comme vous m'aviez prié de le faire. S'il se trouvait encore entre mes mains, c'est parce qu'Aglaé Ivanovna me l'a rendu tout à l'heure. Quand ? Quand ? J'avais à peine achevé d'écrire sur son album lorsqu'elle m'a invité à venir avec elle. Vous l'avez entendu. Nous sommes entrés dans la salle à manger, elle m'a tendu le billet, me l'a fait lire et m'a ordonné de vous le rendre. « Elle vous l'a fait lire ? » hurla Gania. « Elle vous l'a fait lire ? Vous l'avez lu ?» Sa stupéfaction était telle qu'il restait cloué sur place, bouche béante, au milieu du trottoir. « Oui, je l'ai lu il y a un instant. »« Et c'est elle-même qui vous l'a donné à lire ? Elle-même ? » ?»« Elle-même. Et soyez sûr que je ne me le serais pas permis sans cela. » Pendant une minute, Gania se tut et fit de pénibles efforts pour recueillir ses idées. Mais tout à coup, il s'écria. « C'est impossible. Elle ne peut pas vous l'avoir fait lire. Vous mentez. Vous l'avez lu de vous-même. » « Je dis la vérité, » répondit le prince sans se départir de son flegme. « Et croyez-le, je suis désolé du chagrin que cela vous cause. »«
Mais malheureux, du moins, elle vous a dit quelque chose alors. Elle a fait une réponse quelconque. »«
Oui, sans doute. »«
Eh bien, dites-la donc, parlez, oh diable !»
Et Gania frappa du pied à deux reprises. « Aussitôt que j'eus lu votre billet, elle me dit que vous lui tendiez un piège, que votre intention était de la compromettre, qu'avant de renoncer à 100 000 roubles, vous vouliez qu'elle vous dédommageât de ce sacrifice en vous permettant d'espérer sa main. Si vous aviez fait cela sans marchander avec elle, a-t-elle ajouté, si vous aviez tout rompu de vous-même sans lui demander de garantie préalable, elle serait peut-être devenue votre amie. Voilà tout, je crois. « Non, il y a encore quelque chose. Quand je lui ai demandé, après avoir repris le billet, ce qu'il fallait vous répondre, elle a dit que le silence serait la meilleure réponse. Il me semble qu'elle s'est exprimée ainsi. Pardonnez-moi si je ne me rappelle plus exactement les mots. Je vous en donne du moins le sens, tel que je l'ai compris. » Une colère immense s'empara de Gania et lui fit oublier toute retenue.
« Ah ! « Ainsi c'est comme cela !»
vociféra-t-il en grinçant des dents.
« Ainsi on flanque mes billets par la fenêtre. Ah ! Elle se refuse à un marché. Ainsi je lui en propose un. Mais nous verrons. Je ne suis pas encore au bout de mon rouleau. Nous verrons. C'est moi qui aurai le dernier mot. »
Son visage était pâle et convulsé. L'écume blanchissait ses lèvres. Il brandissait le poing d'un air de menace. Les deux jeunes gens cheminèrent ainsi côte à côte pendant quelques minutes. Sans s'inquiéter en aucune façon de la présence du prince, qu'il comptait absolument pour rien, Gania donnait cours à son exaspération aussi librement que s'il avait été seul dans sa chambre. Tout à coup, pourtant, il se fit une réflexion.
« Mais comment donc ? » demanda-t-il brusquement au prince. « Comment donc se fait-il qu'à vous ?
Un idiot, ajouta-t-il à part soi.
À vous, qu'elle connaît depuis 2 heures,
elle témoigne de but en blanc une telle confiance. D'où cela vient-il ? »
Pour que son malheur fût complet, il ne manquait plus à Gagna que d'être jaloux, et voilà que subitement l'envie lui mordait le cœur.
« Je ne saurais pas vous expliquer cela, » répondit le prince.
Gagna fixa sur lui un regard haineux.
« C'est donc pour vous donner si confiance qu'elle vous a emmené dans la salle à manger. En vous priant de la suivre, elle a dit qu'elle voulait vous donner quelque chose. »
Je ne puis moi-même comprendre autrement cette parole.
« Mais pourquoi donc ? Le diable m'emporte ! Qu'est-ce que vous avez fait, là ? Par quoi lui avez-vous plu ? Écoutez, » poursuivit Gagna, qui avait peine à se retrouver dans le désordre de ses pensées. « Écoutez, ne pouvez-vous faire appel à vos souvenirs et me dire de quoi vous avez parlé, là, pendant toute la durée de votre visite ? N'avez-vous pas remarqué quelque chose ? Ne vous rappelez-vous rien ? » ?»«
Oh, je le puis très bien, » répondit le prince. « D'abord, lorsque je fus entré et que j'eus fait connaissance avec ces dames, nous nous mîmes à parler de la Suisse.
« Passez, au diable, la Suisse !»«
Puis de la peine de mort. »«
De la peine de mort ?»«
Oui, de fil en aiguille, l'entretien est tombé sur ce sujet. Ensuite, je leur ai appris comment j'avais vécu là-bas pendant 3 ans, et j'ai raconté l'histoire d'une pauvre villageoise.
« Passez, au diable, la pauvre villageoise ! Après !»
cria Gagna impatienté. Ensuite, j'ai rapporté l'opinion émise par Schneider sur mon caractère, et comme quoi il m'avait vivement engagé.
« Je me moque de Schneider et de ses opinions ! Après !»
Après, le cours de la conversation m'a amené à parler des visages, je veux dire de leur expression, et j'ai fait observer qu'Aglaé Ivanovna était presque aussi belle que Nastasia Philipovna. Tenez, c'est alors que j'ai lâché ce malheureux mot au sujet du portrait.
« Mais vous n'avez pas raconté, n'est-ce pas, ce que vous aviez entendu précédemment dans le cabinet, non ? Non ? » ?»«
Je vous répète que non. »«
Mais alors, d'où, diable ? Bah, Aglaé n'a pas montré le billet à la vieille !»
Je puis vous certifier de la façon la plus formelle qu'elle ne le lui a pas montré. Je suis restée là tout le temps, et si elle avait fait voir votre billet à sa mère, je m'en serais aperçue.
Mais peut-être que vous-même n'avez pas tout remarqué. Oh, maudit idiot !
S'écria Gagna hors de lui.
Il ne s'est même rien raconté.
Enhardi par la patience de son interlocuteur, Gagna, comme c'est le cas de bien des gens, s'abandonnait de plus en plus à la violence de son caractère. Encore un peu, et il aurait peut-être craché au visage du prince tant il était furieux. Mais sa fureur même lui ôtait toute clairvoyance. Sans cela, il aurait depuis longtemps remarqué que celui qu'il appelait un idiot savait parfois comprendre les choses avec autant de promptitude que de finesse, et les rapportait d'une façon très satisfaisante. Cependant, une surprise était réservée au colérique jeune homme.
« Je dois vous faire observer, Gabriel Ardalionovitch, dit tout à coup le prince,
qu'autrefois, en effet, la maladie m'avait amené à une sorte d'idiotisme. Mais il y a longtemps que je suis guéri. Aussi m'est-il un peu désagréable aujourd'hui de m'entendre traiter ouvertement d'idiot. Sans doute on peut vous pardonner cela, si l'on prend en considération vos déconvenues. Mais dans votre mauvaise humeur, vous m'avez insulté par 2 fois. Cela me déplaît, surtout quand on m'injurie ainsi à brûle-pourpoint, comme vous l'avez fait en premier lieu. Par conséquent, comme nous voici arrivés à un carrefour, le mieux est que nous nous quittions. Vous allez prendre à droite pour retourner chez vous, et moi j'irai à gauche. « J'ai 25 roubles, je trouverai facilement à me loger dans un hôtel garni. »
Grande fut la confusion de Gagna, qui avait cru jusqu'alors avoir affaire à un imbécile.
En reconnaissant son erreur, il rougit de honte, et son ton insolent fit aussitôt place à une excessive politesse.
« Excusez-moi, prince, s'écria-t-il d'une voix suppliante, Pour l'amour de Dieu, excusez-moi. Vous voyez combien je suis malheureux. Vous ne savez presque rien encore, mais si vous saviez tout, vous auriez à coup sûr un peu d'indulgence pour moi, quoique certainement je n'en mérite pas.
Oh, vous n'avez pas à me faire tant d'excuses, se hâta d'interrompre le prince.
Je comprends que vous soyez fort contrarié, et je m'explique ainsi vos paroles blessantes. Eh bien, allons chez vous, je vous accompagnerai volontiers.
Non, à présent, il est impossible de le laisser partir comme cela, se disait mentalement Gagna, qui, chemin faisant, observait le prince d'un regard irrité. Ce fourbe m'a tiré les vers du nez, et ensuite il a brusquement levé le masque. Ce n'est pas une circonstance à négliger. Mais nous verrons. Tout va se décider. Tout, tout, aujourd'hui même.
Bientôt, ils arrivèrent à la maison.